Les éditions Télém, une marque audio de RB Média, présentent Les Amants du Loto de Catherine Siguré, narrée par Fanny Gatti-Belza. Le 8 septembre 1976, un couple de concierges parisiens, jeunes et désargentés, décrochait le premier gros lot de l'histoire du loto, lancé 6 mois plus tôt, entraînant une soif de rêve toujours intacte à l'heure du cinquantenaire. Ce roman est une pure fiction librement inspirée du peu que l'on sait de ces pionniers fous d'amour, travailleurs méritants couronnés par la chance, l'occasion d'un voyage dans la décennie mythique des années 1970, le Paris des petites gens où un jour tout devient possible. 1. Leur histoire avait commencé sur un malentendu, comme souvent. À l'été 1975, Juan, 23 ans, espagnol aux muscles bronzés soulignés par un débardeur blanc, prit en stop Suzanne, 20 ans, plantureuse fille du nord de la France, auréolée d'une cascade de cheveux blonds bouclés au fer, à la Farrah Fawcett. Elle et sa meilleure amie étaient tombées en panne dans les lacets qui montaient à Hostagabia, village du Pays basque espagnol, où les parents de Juan tenaient un hôtel-restaurant une étoile. Le mécanicien local, ami de Juan depuis le primaire, partit inspecter la deux chevaux d'occasion et décrita volontiers, à charge de revanche, que la voiture en avait trop fait depuis le Pas-de-Calais, sa réparation réclamerait de longues heures de travail. Les jeunes filles, immobilisées, se virent offrir une chambre pour la nuit, bien naturellement. Elles montèrent se rafraîchir, aux grandes dames de leur hôte, qui rongeait son frein en lorgnant leur volet clos. Quand elles descendirent enfin sur la terrasse pour dîner à 20h, Juan leur expliqua que le service débutait bien plus tard en cette saison. Il leur apporta pour patienter un verre de Rioja en s'attablant à leur côté, puis deux verres, puis on ne compta plus. Juan s'appliqua à divertir les deux touristes dans son français adorable, qu'il tenait de sa grand-mère biarrote, et les fit beaucoup rire. Il observait hypnotiquement Suzanne, son corps aux rondeurs enfantines moulé dans un jean patte d'éléphant, ses yeux bleus des mers du sud, sa crinière qui tremblait quand elle riait à gorge déployée, et même ses dents irrégulières et ses coups de soleil au-dessus de son haut à smock. Et il se prit à penser qu'il adorerait épouser une fille comme ça. Une fille venue d'ailleurs, visiblement en passage, loin des rares qui avaient bien voulu se donner à lui sans qu'il s'engageât au mariage. Il abandonna à regret sa touriste pour son tablier de serveur, fonction qu'il exerçait le temps de ses vacances pour soulager ses parents. Le restant de l'année, il travaillait bien en ville, à Bilbao, ainsi qu'il s'en était vanté, mais en tant qu'ouvrier à la chaîne et non comme chanteur et guitariste. De son côté, Suzanne s'était facilement catapultée, sous l'effet de la chaleur et du vin, dans sa vie rêvée, un univers éthéré assorti aux chansons qu'elle fredonnait du matin au soir. Elle n'avait jamais douté qu'un jour, un homme lui chuchoterait à l'oreille « Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé » ou « On ira où tu voudras quand tu voudras et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort ». Des paroles de ce genre, pleines de futur, d'excès et surtout de jamais vu. Les romans photos de nous deux et les idylles de stars qu'elle lisait dans Podium la réconfortaient dans cette perspective enchanteresse. À force d'y croire, la foudre ne pouvait que la frapper. Les rêves que l'on nourrit en boucle rendent sensibles aux indices qui permettent de les saisir au vol, au lieu de les laisser passer. Pour se faire valoir auprès de celui qu'elle appelait déjà l'artiste, Suzanne s'était déclarée étudiante en secrétariat chez Pigier, ce qui lui apparaissait comme le chic destin d'une fille de bonne famille. Hôtesse de l'air l'aurait bien tenté aussi, mais Juan aurait pu lui demander de lui raconter ses voyages, et avant cet été, elle n'avait jamais passé les frontières de la Somme. Oublier sa place de bonne à tout faire dans une famille qu'elle détestait et qui le lui rendait bien. Oublier sa chambrette sous les combles où elle n'avait le droit ni de fumer ni de mettre à fond son transistor. Oublier sa propre famille, si l'on peut qualifier ainsi un père mutique, ancien mineur, handicapé depuis le coup de grisou de l'hiver précédent, une mère vacharde qui travaillait à droite à gauche, et une petite sœur de 17 ans, d'apparence neurasthénique, faute